Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Le jubilé 2025 s'est officiellement ouvert le 24 décembre dernier avec le rite d'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Que pourrons-nous vivre au cours de cette année jubilaire? Comment pourrons-nous être à notre tour des pèlerins d'espérance? Le temps est venu d'un nouveau jubilé au cours duquel la porte sainte sera à nouveau grande ouverte pour offrir l'expérience vivante de l'amour de Dieu qui suscite dans le cœur l'espérance certaine du salut dans le Christ. C'est ce qu'indique la bulle d'indiction du jubilé 2025. Pour nous faire entrer dans cette année jubilaire, cette année sainte, je suis en présence de Monseigneur Jean-Pierre Battu. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Vous êtes l'évêque auxiliaire de Toulouse et avec vous, nous allons entrer dans l'historique et la tradition de cette année sainte. Le jubilé est un temps de grâce et de renouveau. Dans quelle tradition historique se situe-t-il ?
Alors c'est une tradition très ancienne puisqu'on la trouve déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, au chapitre 25 du livre du Lévitique, le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor, et ce jour-là, vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Le jubilé, finalement, c'est une manière de tout remettre à plat, en particulier en remettant les dettes, en repartant en quelque sorte à neuf, de manière à signifier la miséricorde de Dieu qui ne nous enferme jamais dans notre passif, dans nos péchés, mais nous renouvelle sans cesse. Et tous les 50 ans, en Israël, on fêtait cette remise des dettes, cette remise à plat, ce nouveau départ.
Est-ce que cette tradition depuis Israël a perduré jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, elle a perduré, mais avec des interruptions, puisque c'est en l'an 1300 que, dans l'Église catholique, on a célébré le premier grand jubilé. Et ensuite, la tradition s'est poursuivie avec des jubilés tous les 50 ans, mais aussi des jubilés tous les 25 ans ou des jubilés exceptionnels, comme nous avons eu récemment le jubilé de la miséricorde, par exemple. Et à chaque fois, c'est la même idée, c'est se renouveler en Dieu et se renouveler dans le Christ.
Mais pourtant, il y avait eu un jubilé en l'an 2000, il y en a eu un maintenant, il y en a maintenant en 2025. Donc là, on n'est plus à 50 ans, on est plutôt à 25 ans.
On est à 25 ans, tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a aussi des jubilés dits de la rédemption. Il y en a eu un dans les années 30 du siècle dernier. Il y en aura certainement un dans les années 30 de ce siècle. Donc,
pour voilà. Caler sur l'année de la mort du Christ.
Voilà, exactement. La mort et la résurrection de Jésus, donc qui sont quand même l'événement le plus important de notre histoire, eh bien, nous le célébrons aussi.
D'accord.
Et le pape Jean-Paul II avait demandé en 1983 qu'il y ait un autre jubilé de la rédemption, donc 50 ans après le jubilé proclamé par son prédécesseur, le pape Pie XI.
Donc là, c'est pas dans cette année sainte, ce jubilé tous les 25 ans, on n'est pas dans la même optique que les jubilés de la rédemption, par exemple.
Non, c'est plutôt lié à l'ère chrétienne, à la naissance de Jésus. Bah, en fait, ce sont les deux événements majeurs. Si Jésus n'était pas né, il ne nous aurait pas sauvés, et il est né pour nous sauver. Donc, c'est vraiment à ces deux piliers que nous nous référons avec l'année jubilaire.
Vous avez cité, Monseigneur Jean-Pierre Battu, ce texte de l'Ancien Testament qui est le texte du Lévitique. Est-ce qu'il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament qui font référence ou qui parlent d'une année sainte ou d'une année jubilaire ?
Non, à ma connaissance, il n'y a que celui-là, mais il est resté très vif dans la conscience du peuple juif et il a joué un rôle très important, de sorte que on y retrouve quand même des allusions, par exemple au chapitre 65 du prophète Isaïe, où le prophète dit « Le Seigneur m'a envoyé proclamer une année de bienfaits de la part du Seigneur, c'est bien l'année jubilaire qui est derrière ça ». Et c'est un texte très important parce qu'au chapitre 4 de Saint Luc, lorsque Jésus retourne dans sa ville de Nazareth où il a grandi, va à la synagogue le jour du sabbat et demande à faire la lecture. On lui tend le rouleau du prophète Isaïe. Il tombe précisément sur ce passage et il a une parole étonnante. Il dit « Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, donc la parole de remise des dettes, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Ce qui veut dire que Jésus, d'une certaine façon, s'attribue le privilège et le pouvoir de porter à leur plénitude ce que toutes les années jubilaires annonçaient, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, cette fois-ci qui se manifeste une fois pour toutes.
C'est le Christ qui remet les dettes finalement ?
C'est le Christ qui remet les dettes dans sa passion, exactement. C'est pour ça que dans un langage symbolique, imagé, on parle de rédemption ou de rachat. Racheter quelqu'un, c'est lui permettre de se libérer de ses dettes, justement. Et c'est précisément ce que Dieu fait à notre égard en nous sauvant. Alors bien sûr, c'est un langage imagé. Dieu ne va pas faire un chèque pour nous racheter, mais il fait beaucoup plus puisqu'il donne son propre fils et que ce fils verse son propre sang.
Vous avez dit, Monseigneur, que dans la tradition, il y avait cette façon de, entre guillemets, de remettre les pendules à zéro. Il y avait une libération des prisonniers, il y avait une remise de dette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, en fait ? Qu'est-ce qui était proposé dans ces années saintes ?
Alors, toutes sortes de choses, mais le point fondamental, c'est quand même l'idée de libération. C'est-à-dire que tout ce qui pèse sur nous et nous empêche de vivre ou nous fait vivre une vie diminuée, qu'il s'agisse de l'esclavage, qu'il s'agisse d'argent que nous devons rembourser et que nous n'avons pas les moyens de rembourser, tout cela, Dieu nous dit « je vais t'en libérer pour que tu sois vraiment libre ». Et être libre aux yeux de Dieu, c'est être libre de marcher vers lui. Et finalement, la liberté au sens biblique et au sens chrétien du terme, c'est la capacité de la sainteté, tout simplement, rien de moins.
Oui, en fait, on considère que cette entrave qui nous empêche d'être libres, c'est notre propre péché.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'à toute année sainte est liée l'idée de rémission des péchés avec le thème de l'indulgence et tous ces thèmes qui finalement ne font qu'un.
Alors, évidemment, nous allons parler de cette indulgence un peu plus tard dans cette émission parce que c'est un terme qu'il faut bien expliciter, qui a été mal compris dans l'histoire de l'Église. Je voudrais quand même qu'on parle de cette porte. Jésus, dans l'Évangile de Jean, dit « Moi, je suis la porte ». Monseigneur Jean-Pierre Battu, que signifie ce passage de la porte sainte ?
Alors, ça signifie beaucoup de choses. Passer par une porte, c'est aussi un signe de liberté. Ça veut dire qu'on est libre de ses mouvements. Et d'ailleurs, dans le texte que vous venez de citer, au chapitre 10 de Saint Jean, Jésus parle des brebis qui vont entrer, qui vont sortir. Alors, tantôt, il se compare au berger, tantôt, il se compare à la porte, avec toujours cette idée de liberté des brebis qui peuvent aller trouver leur pâturage là où elles en ont besoin. Et puis, la porte, c'est la porte d'une ville. Jésus, le jour des rameaux, est entré dans Jérusalem en passant par la porte, une des portes de la ville. Et son entrée à Jérusalem, c'est un triomphe royal. Souvent, quand on célèbre les rameaux, on se concentre sur ce qui va suivre, c'est-à-dire la passion. Mais en fait, le geste que Jésus a fait en franchissant la porte de Jérusalem, c'est un geste prophétique parce que nous allons entrer un jour dans la Jérusalem céleste, celle dont la Jérusalem d'ici-bas n'est que la préfiguration. Et c'est le Christ qui nous en ouvre les portes. Et les foules qui acclamaient Jésus étaient des foules de prophètes, en fait, qui annonçaient par avance ce jour qui est l'objet de notre espérance. Et l'année jubilaire sera l'année de l'espérance, nous entrerons dans la Jérusalem définitive.
Est-ce que vous voulez dire que le jour des rameaux, si on fait une petite incursion, les foules qui acclamaient Jésus ne sont pas forcément celles dont on parle souvent, seraient des foules versatiles et qui auraient lynché Jésus au moment de sa passion?
Oui, je pense que se concentrer sur la versatilité des foules en disant « Regardez, ce sont les mêmes qui acclament Jésus aujourd'hui et qui dans quelques jours vont crier à mort, crucifie-le », c'est réduire l'événement. C'est réduire l'événement parce que d'abord, on ne sait pas du tout si c'est les mêmes personnes. Et puis ensuite, cette dimension prophétique des foules est la dimension majeure que les évangélistes mettent beaucoup en avant parce que Jésus arrive en roi et il est déjà, par anticipation, le roi de l'univers, celui qui va conclure l'histoire. Et c'est ça que les évangélistes veulent nous signifier. Et c'est ça qui est signifié dans la procession des rameaux.
Alors vous disiez, Monseigneur, que passer la porte, c'est un acte libre. C'est aussi se mettre à la suite du Christ qui entre dans Jérusalem. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de laisser derrière soi une certaine vie et des poids dont on voudrait se décharger?
On peut tout à fait dire ça, parce que l'entrée dans la cité sainte de Jérusalem, c'est l'entrée là où il n'y a plus de mort, là où il n'y a plus de peur, là où toute impureté est lavée, là où l'humanité est définitivement rénovée en Dieu. Et donc, effectivement, elle a laissé derrière, comme une vieille peau, tout ce qui l'entravait, l'homme ancien, comme dit saint Paul.
Et finalement, passer la porte sainte, ça fait pénétrer où? Ça fait entrer dans quel lieu? Autre lieu?
Alors, ce que...
Dans sa signification.
La signification de la porte sainte. Donc, on entre toujours dans un lieu saint. L'église Saint-Pierre de Rome, et puis les autres basiliques majeures à Rome. Et l'église a toujours été pensée comme une sorte de chemin vers le lieu où tout se concentre, qui est l'autel, où le Christ s'offre à son Père, nous offre avec lui, et où nous recevons le pain de vie, la vie de Dieu. Et donc cette symbolique architecturale vient confirmer la symbolique tout court de la porte.
Dans quelle disposition d'esprit faut-il être pour passer une porte sainte?
Alors, je pense qu'il faut vraiment être dans une disposition de conversion, parce que il n'y a rien de magique dans tout ça.
Oui.
Ces rites qui nous sont proposés, et le pèlerinage à Rome, ne sont que des moyens. Le pèlerinage, c'est toujours un raccourci de notre vie. Quand on fait un pèlerinage, on va vers un but précis, qui est un lieu saint, qui est la rencontre d'un saint, d'une sainte ou du Christ, ou de la Vierge Marie. Et finalement, c'est comme si nous préfigurions ce chemin de notre existence qui nous amène vers une rencontre. La différence entre le fait d'être un croyant et le fait d'être croyant, c'est que si je suis un croyant, je pense que ma vie vient du néant et va vers le néant. Si je suis croyant, je pense que ma vie vient de Dieu qui me l'a donnée et qu'elle va vers la rencontre avec Dieu. Et évidemment, si je pense que ma vie va vers une rencontre, je vais avoir une autre conception de la vie. Et c'est précisément ça qu'on synthétise dans le pèlerinage.
Et je vais m'y préparer à cette
rencontre. Et je vais normalement m'y préparer.
Le Saint-Père a invité à la prière et à la réflexion consciente sur la volonté de Dieu afin que nous puissions l'incarner dans notre vie quotidienne à travers des actions concrètes de compassion, de pardon, de solidarité dans le contexte de l'humanité contemporaine.
Voilà, c'est toujours la même chose et c'est toujours différent parce que les jubilés se présentent dans des moments de l'histoire différents. Et à chaque fois, bien sûr, il y a à exercer la charité la plus concrète en se tournant vers les autres. On ne voit pas comment la démarche jubilaire pourrait porter du fruit si c'était une démarche individualiste.
Oui.
Ça ne peut être qu'une démarche ecclésiale, donc communautaire. Et le propre de l'Église, si on la comprend vraiment, c'est d'être au service de l'humanité.
Et de marcher ensemble, finalement, tous vers le Christ.
Voilà.
Ouais.
C'est le double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. C'est aussi simple que ça.
Ouais, c'est vrai, tout simplement. Qu'est-ce que, très concrètement, les chrétiens sont invités à vivre au cours de toute cette année jubilaire?
Alors, ils sont invités à, s'ils le peuvent, à aller en pèlerinage à Rome. Puisque, je précise cela, puisque dans l'année de la miséricorde, il y avait des portes saintes un peu partout. Mais c'était tout à fait exceptionnel. Normalement, il n'y a de porte sainte qu'à Rome, dans les basiliques majeures. Et donc, ils sont invités à aller à Rome. S'ils ne peuvent pas aller à Rome pour des raisons en particulier financières, eh bien, ils sont invités à vivre la démarche jubilaire dans leur diocèse. Et même s'il n'y a pas de porte, les évêques s'arrangent pour mettre à la disposition des personnes des occasions, des lieux de vivre la démarche jubilaire. Dans le diocèse de Toulouse, nous avons processionné de Saint-Jérôme jusqu'à la cathédrale avec une grande croix qui a été réalisée par un jeune artiste. Cette croix est désormais dans la cathédrale. Et si vous êtes toulousain ou si vous êtes de Haute-Garonne, vous pouvez aller prier devant cette croix, franchir la porte de la cathédrale et puis faire la démarche jubilaire, c'est-à-dire vous confesser, prier aux intentions du Saint-Père et recevoir ainsi l'indulgence du jubilé. C'est pas la peine d'aller à Rome pour ça.
Petite précision sur ces intentions du Saint-Père, puisque en fait elles changent selon le mois de l'année, c'est ça ?
Oui.
Et alors, comment peut-on les connaître ?
Alors, vous avez un site qui s'appelle La Prière du Pape et qui vous donne ses intentions mois après mois. Donc, c'est très facile à trouver. Et si vous ne le trouvez pas, de toute façon, vous priez aux intentions du Saint-Père globalement et c'est la même chose. Enfin, il vaut mieux avoir sous les yeux concrètement les intentions particulières que le pape nous propose pour chaque mois.
Vous avez parlé, Monseigneur Jean-Pierre Battu, de cette croix qui est maintenant installée dans la cathédrale de Toulouse. Évidemment, dans tous les autres diocèses de notre région, il y a un signe marquant de cette année sainte.
Et dans le diocèse même de Toulouse, nous avons souligné des pèlerinages habituels comme le pèlerinage à Saint-Germain-de-Pibrac, par exemple, qui sont des occasions de faire cette démarche jubilaire aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce que vous avez dit, Monseigneur, de cataloguer un peu ? Alors, j'ai coché la prière aux intentions du pape, j'ai coché la confession, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être dans un donnant-donnant ?
Alors, vous avez... Le quantitatif est toujours au service du qualitatif et on peut toujours en rester au quantitatif. On peut, par exemple, comptabiliser le nombre de communions qu'on a faites depuis qu'on a fait sa première communion. Je pense que peu de gens le font, heureusement, parce qu'on n'est pas dans l'ordre du quantitatif, mais du qualitatif. Mais le qualitatif se déploie toujours dans le temps, parce que nous sommes des êtres temporels. Et nous avons besoin de durer dans une démarche, de faire des démarches à différentes étapes de notre vie aussi. C'est pour ça que ces démarches sont proposées. On peut les vivre d'une façon complètement biaisée. On peut les vivre d'une façon qualitative et donc de la meilleure façon qui soit. Voilà. C'est encore une manière de dire qu'il n'y a aucune magie et aucun automatisme dans tout ça.
Et puis finalement, cette année sainte, elle est une occasion de renouveau spirituel, de conversion, on peut le dire comme ça aussi ?
Oui, je pense que le Saint-Père en attend beaucoup. Et personnellement, je suis très, très touché qu'il nous ait proposé ce thème de l'espérance, parce que nous sommes dans un monde compliqué, dangereux, anxiogène, pour beaucoup de gens, et en particulier pour ceux qui grandissent dans ce monde. Moi, j'appartiens à une génération qui est en train de disparaître progressivement, mais les plus jeunes ont des peurs, des angoisses, et je les comprends très bien. Et donc, le thème de l'espérance est vraiment un thème fédérateur, et nous avons la chance en français de disposer de deux mots, espoir et espérance, et nous pouvons donc montrer que l'espérance à la fois rassemble tous nos espoirs humains et nous entraîne bien au-delà, puisqu'elle est ancrée en Dieu lui-même.
Alors, j'avais gardé effectivement cette question sur l'espérance pour la deuxième partie de notre émission, mais puisqu'il nous reste un petit peu de temps avant cette pause musicale, on peut peut-être un petit peu préciser pourquoi ce thème a été choisi.
Alors ça, il faut poser la question au Saint-Père.
Ça, vous ne le savez pas. Suite alors.
Il ne nous donne pas le fin mot de son choix, même dans la bulle d'indiction, mais je pense que il regarde autour de lui, il est très conscient des plaies de notre époque, il en parle fréquemment des guerres qui ravagent le monde, il parle fréquemment des disparités entre les pays riches et les pays pauvres, il parle fréquemment des migrants. Par conséquent, on voit très bien ce qui l'a poussé à proposer ce thème.
Oui. Alors, je vous propose, Monseigneur Jean-Pierre Battu, que nous marquions une pause musicale. Nous allons écouter tout simplement l'hymne officiel du jubilé 2025, intitulé « Pèlerin d'espérance ».
Je t'en prie.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
En ce début d'année jubilaire, nous sommes avec Mgr Jean-Pierre Battu, évêque auxiliaire de Toulouse, pour bien comprendre ce que cette année sainte signifie et soit à quoi elle nous invite. Nous avons parlé en première partie de cette émission de l'historique des jubilés dans l'Église et vous nous avez donné, Mgr, l'explication du passage de la porte sainte. Vous avez esquissé ce thème de l'espérance qui a été choisi par le pape. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre pour nous encourager dans cette démarche d'espérance?
Alors peut-être citer ou renvoyer au passage dans saint Paul où il traite des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. C'est dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens qui contient la fameuse hymne à la charité. Et puis à la fin, il dit « Elles sont trois qui demeurent » ou « Ces trois demeurent ». Il ne dit pas « vertu » d'ailleurs, le mot « vertu » a été ajouté par la suite. Pour expliquer ces trois, la foi, l'espérance et la charité, voilà. Et la plus grande des trois, c'est la charité, voilà. Mais la foi et l'espérance sont en quelque sorte les vertus du chemin. La charité, c'est la vertu de l'accomplissement que nous devons déjà vivre sur le chemin, mais sur le chemin, nous ne sommes pas encore parvenus au but, par définition. Et la foi nous permet d'affirmer vers qui nous allons et l'espérance nous permet d'affirmer ce que nous promet celui vers qui nous allons. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on la compare dans l'Épître aux Hébreux à une ancre qui est non pas en bas, mais qui est en haut dans le ciel et qui nous permet de nous acheminer vers notre but. Voilà. Donc je dirais que l'espérance, c'est vraiment la vertu du chemin, la vertu de l'itinéraire, et donc la vertu du pèlerinage de notre vie vers Dieu.
Et puis l'espérance ne déçoit pas.
Et l'espérance ne déçoit pas, Romains 5,5, voilà. L'espérance ne déçoit pas, car l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs, ou plutôt l'amour de Dieu, pardon, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espérance ne peut pas décevoir, pourquoi ? Parce qu'elle repose sur des promesses. Alors il y a des promesses dont on peut douter parce qu'on doute des personnes qui nous les ont faites. Mais quand c'est Dieu qui promet, eh bien normalement on ne peut pas douter de ce que Dieu promet, d'où l'image de l'encre. Et c'est pour ça que saint Paul dit l'espérance ne peut pas décevoir, elle est certaine. Elle n'est pas encore totalement accomplie, mais elle est certaine.
Et finalement, le but ultime de l'espérance, c'est le Christ lui-même, hein.
Le but ultime de l'espérance, c'est Dieu, c'est la vie de Dieu, et donc le Christ, oui. Et c'est la différence entre les espoirs humains et l'espérance, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, je crois. Nous avons la chance d'avoir ces deux mots en français, espoir et espérance. Ce n'est pas le cas dans toutes les langues. Je peux espérer qu'il fera beau demain, mais je n'en ai absolument aucune certitude. Tandis que si j'espère en Dieu, alors là, c'est une certitude.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette différence entre l'espoir et l'espérance une notion de participation ? J'espère qu'il fera beau demain, mais en fait, ça ne m'appartient pas. En revanche, j'espère aller au ciel un jour, j'ai une part aussi.
Oui, vous avez raison. L'espérance nous implique de façon très personnelle, très existentielle. Voilà. On ne peut pas espérer en se situant en dehors de ce qu'on espère. Et parce que nous sommes directement concernés par ce qui nous est promis, tous. Et je dirais même que non seulement on ne peut pas espérer en dehors de ce qu'on espère, mais on ne peut pas espérer de façon strictement individuelle. Espérer, c'est espérer pour tous. Voilà. Et l'espérance, comme la foi et la charité d'ailleurs, suppose que nous ayons conscience d'appartenir à une communauté. Une communauté qui croit, une communauté qui espère, une communauté qui aime.
Et c'est ce que vous disiez en première partie de cette émission, Mgr, c'est que finalement, cette démarche jubilaire, c'est une démarche qui est individuelle, mais aussi communautaire.
Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que les diocèses en particulier sont invités à venir en diocèse à Rome, ou bien certaines catégories de personnes à venir ensemble à Rome. Nous cheminons ensemble et il faut le traduire de façon très concrète.
Mmh. Alors, dans la démarche de l'année sainte, il y a une démarche de conversion, nous l'avons dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste exactement ?
Oui, alors la conversion, c'est un maître mot de la Bible et du Nouveau Testament en particulier, puisque c'est la première chose que dit Jésus dans sa vie publique. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Voilà. Et c'est ce que disait avant lui Jean-Baptiste. Et pourquoi convertissez-vous ? Parce qu'il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Alors il y a deux sortes de conversions, il y a d'ailleurs deux mots grecs différents pour les exprimer. Il y a la conversion qui consiste à changer radicalement de route. Voilà. On était vraiment sur une route de perdition et puis on va faire demi-tour. Voilà. Ça c'est un premier sens, mais il y a un deuxième sens qui en grec se dit métanoïa, qui est cette conversion permanente à laquelle nous sommes appelés dans notre vie, parce que nous ne sommes jamais quittes envers l'amour de Dieu et nous avons toujours à chercher à nous en rapprocher davantage. Et cette conversion permanente, l'Église pédagogiquement nous invite à la vivre de manière plus intense, d'abord dans des temps liturgiques, oui. En particulier le temps du carême. Ça ne veut pas dire que les autres temps, il ne faut pas se convertir, mais qu'on va être particulièrement attentif à cela pendant le temps du carême. Selon une expression que je déteste, on va faire des efforts, mais j'aime pas cette expression parce qu'elle est très volontariste. Oui. Non, on va se laisser transformer par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et puis, il y a des temps et il y a des lieux. Et les lieux, ce sont les lieux de pèlerinage, entre autres, qui sont des lieux où nous sommes invités à faire retour sur nous-mêmes et à changer dans notre vie, avec la grâce de Dieu, ce qui doit l'être.
Est-ce que dans cette notion de conversion, il n'y a pas aussi cette notion d'ajustement, de s'ajuster petit à petit et davantage à la volonté de Dieu et...
Oui, et c'est dans le rapport à la parole de Dieu qu'on le sent, parce que cette parole nous rejoint et en même temps nous fait mesurer que nous ne sommes pas pleinement dedans. Il faut que nous marchions vers elle. La parole de Dieu, il faut se rappeler, c'est une personne, c'est le Christ. Et donc, qui pourrait dire qu'il est pleinement, qu'il vit pleinement de la vie du Christ ? Cherchons à nous en rapprocher de plus en plus, et le Seigneur nous y aide. Mais cet ajustement dont vous parlez, c'est exactement ça.
Vous nous avez dit, Monseigneur, que dans la démarche de conversion, il y a une démarche de pénitence. Là, par quelles étapes elle passe ?
Alors, pénitence, oui, c'est un mot latin qui veut dire « je regrette ». Donc, je vais regarder ma vie dans la prière, et puis je vais voir qu'il y a des choses en creux dans ma vie qu'il faudrait mettre en relief. Et pour cela, je vais demander pardon, ce que normalement on devrait faire tous les soirs à la fin de chacune de nos journées, remercier Dieu, lui demander pardon et puis lui offrir par avance la journée suivante. Et puis il y a un sacrement qui est le sacrement du pardon ou de réconciliation ou de pénitence selon les termes qu'on emploie, qui est d'une certaine manière notre baptême qui nous est rendu. Parce que notre baptême nous a refait à neuf, et puis il y a une usure postérieure au baptême qui fait que nous sommes beaucoup moins neufs. Et à différents moments de notre vie, par ce sacrement, qu'on appelait parfois dans l'Église primitive le second baptême, notre baptême nous est rendu dans toute sa nouveauté, et cela nous permet aussi, par l'introspection qui précède, de repérer des éléments dans notre vie qui ne sont pas selon Dieu et qu'il faut demander à Dieu de guérir. Voilà. Beaucoup de gens se plaignent de ce que dans leur confession, ils disent toujours les mêmes choses.
Oui.
Alors, il m'est arrivé de dire, le Seigneur ne vous demande pas d'inventer de nouveaux péchés, il vous demande de vous présenter à lui tel que vous êtes. Ce n'est pas très étonnant que vos lieux de pauvreté et de blessure soient toujours un peu les mêmes. Mais vous faites un acte de foi qui consiste à dire « Seigneur, je crois que tu es en train de les guérir et qu'au fur et à mesure que je te les présente, tu continues à les guérir. » Voilà. Donc c'est cette logique, encore une fois, temporelle du sacrement. C'est un sacrement qui est fait pour être répété, à la différence du baptême. Le baptême, c'est une fois pour toutes, mais le sacrement de réconciliation, c'est d'étape en étape, et précisément pour accompagner notre conversion permanente.
Et puis il y a cette question dans la conversion, dans la pénitence, il y a cette possibilité d'une indulgence qui est donnée au cours de l'année sainte. Alors oui. Là, il faut être très très clair, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de confusion dans les siècles passés avec les indulgences.
Oui.
Donc là, je vous demande, Monseigneur, de nous expliquer un petit peu cette notion d'indulgence.
Alors en fait, c'est pas si compliqué que ça, si on se rappelle que dans les fautes que nous commettons, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que le péché nous éloigne de Dieu et nous éloigne des autres. Voilà. Et ce premier aspect, eh bien, il est guéri par le sacrement de réconciliation, puisque nous étions éloignés de Dieu, il nous réconcilie avec lui. Mais nos péchés laissent des traces. Nos péchés laissent des traces et il faut réparer. Alors, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je suis tenu de lui rendre. Mais il y a des choses que je peux difficilement rattraper. Par exemple, l'exemple classique, c'est quand on dit du mal des autres. Après, ça se propage. Et puis, bien malin, qui pourrait empêcher cette propagation une fois qu'il a déclenché le processus.
C'est voilà. Saint-Philippe Néri, non, qui avait pas cette histoire-là.
C'est Saint-Philippe Néri avec l'histoire de la poule, oui. Une de ses pénitentes lui dit « j'ai dit du mal de mon prochain ». Et Saint-Philippe lui dit « comme pénitence, vous allez acheter une poule et puis vous allez marcher dans les rues en la plumant ». Alors, elle est très étonnée, mais elle le fait. Et puis, vous reviendrez me voir. Elle revient voir Saint-Philippe Néri et il lui dit « maintenant, vous allez reparcourir les rues en ramassant toutes les plumes de la poule ». Et la pénitente lui dit « mais c'est pas possible, le vent les a dispersées ». Et Saint-Philippe lui dit « vous voyez, quand on dit du mal des autres, c'est exactement comme ça. On disperse des mauvaises paroles et puis après, c'est impossible de les rattraper ». Voilà, donc il y a cette dimension
des conséquences,
qui n'est
en
pas
fait,
effacée par, oui. Par le pardon reçu dans le sacrement de réconciliation et que nous devons pourtant réparer. Il y a des choses que nous pouvons réparer, d'autres non.
Et par exemple, excusez-moi de vous interrompre, si justement on a dit du mal de quelqu'un, puisque vous parliez de la calomnie, si on est allé demander pardon à cette personne d'avoir répandu une mauvaise information, ça ne suffit pas à réparer parce que justement il y a eu toute cette divulgation.
Voilà, parce que nous avons perturbé quelque chose dans l'ordre normal des choses et que nous ne pouvons pas le réparer intégralement. Alors bien sûr, l'indulgence ne va pas réparer ce que nous avons fait, mais elle va nous rétablir, nous, pleinement, dans l'amitié de Dieu. Et donc c'est une démarche pénitentielle, l'indulgence, qui va, pour nous et aussi pour d'autres, avoir cette vertu d'appliquer les mérites de la passion de Jésus à ce qui a été perturbé dans la beauté du monde et qui ne peut pas être réparé par nous, quelques peines que nous y prenions. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle techniquement la peine éternelle due au péché. Alors, cette peine éternelle, donc ça, on voit les flammes de l'enfer tout de suite, donc il y a toute une imagerie qui s'y attache, donc on évite peut-être un peu le terme, mais c'est cette dimension irréparable. Voilà, c'est cette dimension irréparable que le Christ est venu réparer aussi, mais qui nécessite de mobiliser notre désir de conversion et de mobiliser aussi toute la prière de l'Église. Finalement, l'indulgence est toute la prière de l'Église qui est l'Église visible et l'Église du ciel qui s'unit pour que l'œuvre du Christ aille jusqu'au bout d'elle-même.
Alors, vous avez dit, Monseigneur, qu'on pouvait demander cette indulgence pour soi-même, pour les conséquences de ses propres péchés, mais
oui.
Aussi pour d'autres.
Oui.
Qu'il soit vivant, qu'il soit mort.
Qu'il soit vivant, qu'il soit mort, peu importe. Et bien au-delà des personnes que nous pourrions mentionner. Mais c'est l'occasion aussi de prier pour des personnes concrètes, pour nos défunts, par exemple. C'est aussi une belle manière d'appliquer la communion des saints. Puisque finalement, l'indulgence, le mot-clé de l'indulgence, c'est peut-être celui-là, la communion des saints.
Et finalement, avoir cette démarche jubilaire, cette démarche d'indulgence pour une personne défunte, ça donne, entre guillemets, la garantie qu'après, cette personne est au ciel ?
Ça donne la garantie que cette personne est au ciel ? Non, ça donne la garantie que l'Église ne cesse pas de prier pour elle. Mais il ne faut jamais oublier que, dans ce qu'on appelle le purgatoire, il n'y a qu'une seule sortie, c'est la sortie vers le ciel.
Oui.
Voilà. Le purgatoire n'est pas l'antichambre de l'enfer, c'est l'antichambre du ciel. Et le purgatoire n'est pas un lieu, c'est un état. C'est l'état de purification de quelqu'un qui... Vous savez, qu'est-ce que c'est que notre mort? Je disais tout à l'heure que c'était une rencontre, c'est la rencontre de l'amour de Dieu. Et si je rencontre l'amour de Dieu tout pur, sans aucun nuage, eh bien, je mesure la pauvreté de mon amour à moi. Et c'est une source de souffrance. Et cette souffrance, elle est purificatrice. C'est ça le purgatoire. Cette souffrance de voir que mon amour n'a pas été ajusté à l'amour que Dieu me porte et à l'amour que Dieu répand sur l'univers. Et cette souffrance purificatrice, elle me rapproche toujours plus de Dieu et elle fait que l'issue du purgatoire, c'est la vie avec Dieu.
Et si on est pris d'un grand désir de sauver un maximum, un certain nombre d'âmes qui sont justement dans cet état de purification au purgatoire, est-ce qu'on peut renouveler cette démarche d'indulgence?
Oui, tout à fait, on peut la renouveler et puis on peut aussi la prolonger au-delà de l'année jubilaire. Pas tout à fait sous la même forme, mais c'est fait aussi pour qu'on prenne conscience que cette communion des saints, elle dépend de nous pour être vraiment vivante. Elle dépend de notre désir de sortir de nous-mêmes, de notre petite coquille, pour nous unir à ce qui fait la raison d'être de l'Église, c'est-à-dire le salut de l'humanité tout entière.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dimension dans l'indulgence?
Alors, comme dimension dans l'indulgence, il y a le fait de recevoir le sacrement de pénitence, de réconciliation, le fait de prier aux intentions du Saint-Père, comme nous l'avons dit, le fait de communier. Donc, finalement, de synthétiser les démarches sacramentelles les plus importantes de la vie chrétienne que nous avons parfois tendance à vivre de manière séparée les unes des autres, voilà, sans voir le lien qu'elles entretiennent les unes avec les autres. Tous les sacrements forment ce qu'on appelle un organisme, c'est-à-dire qu'ils sont un peu comme notre organisme, nos mains, nos pieds, notre tête, ils sont interdépendants et c'est ensemble qu'ils nous apportent la vie de Dieu. Et vivre la démarche jubilaire sert aussi à nous rappeler ça.
Un dernier mot peut-être pour conclure, Monseigneur Jean-Pierre Battu, pour cette année sainte, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, de transmettre comme message à tous les auditeurs de Radio Présence qui nous écoutent aujourd'hui?
Eh bien, vous savez, nous avons fait allusion à cette phrase tout à l'heure, Romains 5:5, c'est la parole du Nouveau Testament que saint Augustin a citée le plus grand nombre de fois. Je crois qu'il la cite 250 fois, quelque chose comme ça, dans ses œuvres. L'amour de Dieu, l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Quand on pense à cette phrase, qu'on se dit que Dieu a répandu dans nos cœurs son propre amour, qui est l'Esprit Saint en personne, eh bien, je pense qu'on peut rester en prière avec cette phrase pendant toute une vie. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et finalement, ce que je souhaite aux auditeurs, c'est d'en redécouvrir la beauté et de s'en nourrir pendant toute cette année jubilaire.
Redécouvrir la beauté de l'amour de Dieu pour chacun de nous.
Exactement.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Pierre Battu.
Merci à vous.
Bonne année sainte.
Bonne année.